Vous êtes sur RTL.
Janvier.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43. Bonjour Anne Giudicelli.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des crises internationales, du monde arabo-musulman. Vous dirigez le cabinet de conseil terrorisque. Nous allons revenir avec vous sur la mission de nos soldats au Mali, après la mort de trois d'entre eux hier dans la zone des trois frontières. Je rappelle qu'ils ont été tués par une bombe alors qu'ils participaient à une opération dite d'escorte. Le nombre de militaires français décédés au Sahel s'élève désormais à 47. 47 morts depuis 2013. Est-ce acceptable ?
De toute façon, dès qu'il y a un engagement militaire, il y a forcément ce qu'on appelle les risques collatéraux, c'est-à-dire que les forces sont exposées à des à la mort, et ça fait partie de la décision politique d'envoyer des hommes quelque part. Donc effectivement, c'est toujours des morts de trop, mais ça fait partie des choix politiques.
Mais justement, alors vous parlez politique et vous avez parfaitement raison, mais on sait aussi que nos démocraties sont devenues particulièrement sensible à ces décès. Alors certains diront qu'elles sont fragiles, d'autres qu'elles doivent se revigorer. Bref, mais peut-on dire trois morts de trop pour l'opinion publique ? Trois morts de trop pour l'opinion publique.
De toute façon, dès qu'il y a des choix politiques, politiques extérieures notamment, il y a d'abord, c'est toujours soumis aux assemblées.
Oui.
Donc c'est normalement un choix partagé par l'ensemble des Français via leurs représentants. Ensuite, il faut faire de la pédagogie. Pourquoi est-ce que on est là-bas ? Alors, on nous dit souvent que les engagements extérieurs, c'est pour travailler là-bas à notre sécurité ici.
Oui.
Bon, ça, c'est un argument qui est pas forcément palpable. En tout cas, les faits démontrent que ce qu'on fait à l'extérieur n'a pas empêché, par exemple, des attentats en France.
Ben, vous lisez en moi, parce que c'était ma prochaine question. Que font nos militaires dans cette région du monde ? Je rappelle qu'ils sont plus de 5000 sur place aujourd'hui. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a eu un renfort récent de 600 hommes. Ça fait quand même depuis 2013 que la France a déployé d'abord Serval, puis Barkhane, et que la menace terroriste n'a pas baissé pour autant dans la région, ni d'ailleurs en France, pour reprendre l'argument de la sécurité là-bas, donc la sécurité ici. Disons qu'ils font tampon. Ils font tampon depuis 2013 pour empêcher cette région où il y a des intérêts importants français de basculer dans un chaos, ou en tout cas dans une gouvernance qui serait plutôt chariatique, hein, puisque c'est dans, en gros, la loi islamique, c'est quand même le projet de ces groupes-là. Et donc, on dit que c'est le Mali qui nous a demandé de le faire, mais ça rejoint des intérêts français. Et depuis, la France est un peu toute seule là-bas, malgré la force Tabouka.
Je vais y revenir, mais est-ce que ça veut dire que, on pourrait dire quasi officiellement, nous sommes là-bas pour combattre ce qu'on appelle, par commodité de langage, mais on voit de quoi on parle quand même, l'État islamique ? Est-ce que nous sommes sur place en guerre contre l'État islamique, ou en tout cas pour en limiter les nuisances, si je comprends bien ce que vous étiez en train de nous dire ?
Oui, on est en guerre contre des groupes qui utilisent la violence pour essayer d'imposer leur façon de gouverner, et face à un État qui est quand même failli, hein, qui est le Mali, et les pays environnants qui sont quand même, il faut aussi le dire, dans un système de gouvernance où il y a beaucoup de corruption, beaucoup de failles de cette nature.
Qu'est-ce que c'est que cette zone dite des trois frontières dans lesquelles nos militaires ont été tués ?
C'est la zone la plus dangereuse, hein, pour les forces. C'est là où elles sont souvent amenées à combattre, aux côtés donc des forces régionales, des forces maliennes, nigériennes et burkinabées. C'est un peu le croisement de tous les dangers, puisque effectivement les groupes se déploient et se replient sur cette zone et à partir de cette zone.
Est-ce qu'on fait le sale boulot finalement que personne ne veut faire, et en plus avec des moyens limités qui sont ceux d'une puissance moyenne, la France ?
Oui, d'une certaine façon, mais on fait rien non plus pour véritablement que les choses changent, puisque la France appelle les Européens à les aider. On forme depuis des années, que ça soit en bilatéral ou au niveau européen, les forces locales, mais pour autant, elles n'ont pas encore acquises, pour des raisons de gouvernance locale, la plupart du temps, les capacités pour prendre le relais, hein, ce à quoi appelle l'État français, c'est que les forces régionales prennent le relais de la France. Donc à terme, il y a un retrait, on peut appeler ça un redéploiement, des forces françaises pour progressivement laisser la place aux forces régionales pour faire le job, justement, que vous appelez le sale boulot.
Mais il y a des résultats en la matière. J'ai l'impression que, depuis que je suis journaliste, j'ai toujours vu la France faire de la formation militaire en Afrique. Alors,
Oui, non, c'est vrai. Il y a des formations, mais les armées, si vous voulez, c'est culturel aussi. C'est que l'armée dans ces pays-là est considérée comme une force potentielle de danger pour les gouvernances qui se succèdent. Et donc l'armée, c'est vu comme
les futurs. C'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du gouvernement, c'est ça?
Oui,
en tout cas perçue comme telle. Enfin,
c'est ça, c'est-à-dire
politiquement.
Politiquement, c'est l'armée potentiellement est une menace pour la gouvernance en place, puisqu'elle peut, elle est génératrice de coups d'État, et on a vu un récemment au Mali, il faut quand même le rappeler.
Est-ce qu'on sait ce que pense le commandement français de la situation? C'est-à-dire ce que pensent vraiment nos militaires? Il y a ce qu'ils expriment officiellement, et puis j'imagine quand même qu'il doit y avoir débat. Enfin,
Le chef d'état-major des armées, Monsieur Lecointre, a quand même fait connaître sa position clairement il y a peu de temps, en disant que à terme il fallait que la France se retire, mais progressivement. Enfin, c'est pas il a pas pris des positions complètement dissidentes, hein, mais il l'a clairement dit que la France n'est pas amenée à rester. Bon, c'est un argument, sauf que ça fait un moment qu'elle y est.
Oui, et j'allais vous dire, ça fait un moment aussi qu'on suggère qu'à terme la France ne devrait plus être sur place.
Bon, pour le moment, il y a eu cette force Tabouka qui a été montée pour essayer de faire d'y intégrer des forces européennes.
Qu'est-ce qu'on appelle la force Tabouka? Pardonnez-moi.
C'est une force où là on a des Estoniens par exemple qui contribuent à l'effort national sur place pour essayer de partager le fardeau, comme on dit, c'est-à-dire que les Français ne soient plus seuls, encore une fois, parce que le problème de la France, c'est qu'elle y va seule et qu'il y a aussi d'autres puissances qui commencent à prendre pied en Afrique et qui, à terme, risquent de réduire l'influence de la France, puisque la France, c'est pas seulement son armée qui combat des terroristes qui ne cessent d'ailleurs de monter en puissance, mais c'est aussi des intérêts stratégiques.
Vous pensez à la Chine, notamment?
La Chine et la Russie, et la Turquie aussi.
La Chine, la Russie, la Turquie sont présentes en Afrique aujourd'hui?
Oui, ils sont présents, bien sûr. Même l'Iran.
Militairement
renseignement militaire, dans le sens économique, dans le sens stratégique.
Et est-ce qu'il est clair qu'aujourd'hui aucune force africaine ne peut gérer ce genre de situation?
Là aussi, c'est des questions de volonté politique. Donc, on a quand même affaire à des gouvernances fragiles qui sont... Enfin, ce qui s'est passé au Mali récemment avec le coup d'État démontre que ce qui était vrai à la fin de la décolonisation, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a été mis devant le fait que la France, qui quand même donne des siens pour essayer de maintenir un espèce d'équilibre des forces sur le terrain, s'est retrouvé face à une situation inacceptable en termes de démocratie. Ils ont été obligés d'accepter ce qui se passait avec le coup d'État.
Est-ce qu'on peut faire le bilan de notre présence sur place? Peut-on dire qu'on évite le pire, en tout cas pour les populations locales?
Voilà, en fait, on empêche que ça se dégrade plus encore, mais en fait, c'est toujours une question d'interaction. C'est-à-dire, les groupes, ils vont se déplacer en fonction de ce qui est en face d'eux. Donc les forces françaises, même si elles augmentaient en termes de volume, etc., les groupes vont se déplacer, vont aller un peu plus vers le sud, vont commencer à aller dans d'autres pays pour pouvoir se redéployer. C'est ce qui se passe depuis 2013. Les groupes sont progressivement descendus vers d'autres pays. Le Burkina au départ n'était pas aussi ciblé qu'il l'est aujourd'hui. Donc il y a effet action-réaction, donc ça génère
aussi... C'est un jeu mouvant en permanence.
C'est un jeu d'interaction où les groupes vont aussi se renforcer et vont tant qu'il y aura un problème de développement dans ces pays. Donc les jeunes recrues, c'est des jeunes qui n'ont aucun avenir. Donc ils ont un salaire, ils vont être rémunérés. Donc voilà, c'est une espèce de dynamique. Où tout le monde a sa part.
Une toute dernière question, excusez-moi de vous interrompre. Il nous reste une trentaine de secondes. Si les Français s'en vont, est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est forcément le chaos ?
D'abord, les Français ne partiront pas.
Très bien.
Ensuite, le chaos, il est déjà là. Je pense qu'il faut un sursaut politique, qu'on mette les points sur la table en termes de gouvernance, et que le développement soit beaucoup plus ciblé sur les populations, sur les réels bénéficiaires, qu'il y ait un vrai travail sur donner des moyens à toute cette population, en particulier les jeunes, d'avoir un avenir dans ces pays-là et qu'ils ne soient pas, les proies de ces groupes.
Hein. Je rappelle qu'on parle d'un continent, l'Afrique, dont on dit qu'il sera le continent du 21e siècle. Merci beaucoup à Judith Shelly, vous êtes fondatrice du cabinet Terrorisque. Bonne journée à vous.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.